marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Sigmund Baumann et la société liquide.
La modernité liquide. Voilà le terme exact. Modernité liquide. Pourquoi liquide ? Si vous consultez n'importe quelle encyclopédie pour le terme de liquide, vous verrez qu'il est défini comme une substance qui ne peut conserver sa forme pendant très longtemps. Autrement dit, elle ne produit aucune nouvelle structure durable ou persistante. Et voilà le point essentiel. La caractéristique prédominante de la modernité liquide, c'est justement la crise de la notion du long terme.
Deux ouvrages testamentaires de Baumann paraissent en français. L'un s'appelle « Les enfants de la société liquide ». Nous sommes nombreux, en effet, à utiliser son vocabulaire, souvent sans le savoir, quand nous constatons la liquéfaction des institutions sociales. C'est du Baumann quand nous ne savons plus où sont les pouvoirs, mais que nous pouvons certifier qu'ils ne sont plus là où nous sommes. C'est du Baumann. Vieillard, toujours aux aguets, il s'intéressait aux lieux les plus fréquentés du monde, les stades de foot. On pouvait l'interroger sur la télé-réalité ou la multiplication des tatouages. Il observait alors que la présentation de soi était de plus en plus importante parce que l'incertitude grandissait. Un emploi à la Silicon Valley, ça dure 8 mois en moyenne. Et le mariage ressemble de plus en plus à un CDD. Sois flexible et je serai libre. Sa compagne, qui a son humour, observe que, mort en 2017 à 92 ans, il est entré dans une éternité, elle aussi, liquide. Baumann est devenu célèbre pour avoir formulé cette notion extensible de société liquide juste avant l'an 2000, au moment où s'étendait la numérisation. Mais il avait participé auparavant à d'autres mondes dont il gardait le souvenir. Juif polonais pendant la guerre, grand professeur d'université à Leeds, au Royaume-Uni, lecteur de Weber, Gramsci, Arendt, de tout ce qui a compté en philosophie et en sociologie, et de Camus aussi, qui disait « il y a la beauté et il y a les humiliés ». Avant, le Baumann 3, c'est l'expression qu'il utilisait plaisamment. On l'avait vu passer un Baumann 1 et un Baumann 2. L'histoire est une course de relais. Baumann refusait la nostalgie, mais protestait quand la modernité liquide passait par-dessus bord les besoins et les pensées d'hier au prétexte que les informations d'aujourd'hui surabondent. Survol cavalier aujourd'hui du parcours de cet homme qui s'est acharné à parler à plusieurs générations successives qu'il voulait tenir ensemble. En réalité, c'était deux mondes qu'il voulait tenir ensemble. Le monde en ligne dont nous croyons qu'il nous appartient, le monde hors ligne auquel nous continuons d'appartenir.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Pierre-Antoine Chardel, bonjour. En 2013, un livre sur Baumann en français aux éditions du CNRS. Il y a beaucoup plus de livres dans le monde anglo-saxon depuis beaucoup plus longtemps. Comment je vais vous définir ? Vous êtes, c'est bien pour la marche de l'histoire, professeur d'hypermodernité.
Enseignant, chercheur spécialisé, en effet, sur notre condition hypermoderne.
Et sur l'introduction d'un minimum d'éthique dans l'hypermodernité. On n'a pas le temps de faire le détail du parcours biographique de Sigmund Baumann, qui est tout sauf rectiligne. C'est un petit juif de Poznan qui est harcelé quotidiennement, parce que le harcèlement, dit-il, ça ne finira jamais, jusqu'à la fuite de sa famille vers l'URSS au début de la guerre.
En effet, je crois que c'est important de rappeler d'où vient Sigmund Baumann pour comprendre la richesse du regard qu'il porte sur notre modernité liquide. Sigmund Baumann est un témoin des grandes errances et des grandes déchirures de l'histoire du XXe siècle. Comme vous l'avez dit, il naît en Pologne en 1925 au sein d'une famille juive non pratiquante. Sigmund Baumann se réfugie en URSS en 1939 pour fuir le nazisme, où il s'engage dans l'armée polonaise, donc c'est un homme d'action, en participant ainsi à la libération de Berlin en 1945. Et dans l'après-guerre, il suit des études de philosophie, c'est important de le souligner, et de sociologie. Sa femme, Janina, est une rescapée du ghetto de Varsovie. Et il est attaché au marxisme, il n'en est pas moins très critique à l'égard de son orthodoxie. et du gouvernement polonais à cette époque.
C'est le Bauman 1 quand il est professeur à l'université de Varsovie.
Absolument, où il produit une œuvre en langue polonaise qui n'a pas encore été traduite. Il devient de 64 à 68 responsable de la chaire de sociologie de l'université de Varsovie. Puis il est contraint par le régime communiste de quitter la Pologne. Et ça, c'est une date importante, en 1968, lors des persécutions antisémites. Zygmunt Bauman quitte donc la Pologne, tout d'abord pour Tel Aviv, en Israël, puis pour le Royaume-Uni, où il fut nommé professeur à l'université de Leeds.
Ceci au début des années 70. Il va être un grand sociologue critique, parce que cherche toujours le versant critique dans tout ce qu'il analyse. Ça, c'est le Bauman 2. Il est connu aussi pour un livre sur l'Holocauste et la modernité. Ben, on ne va pas non plus entrer dans le tissu de ce livre. Simplement, il y a cette idée, ça peut revenir. Je veux dire qu'il suffit que les pouvoirs politiques ne se montrent pas assez structurés et englobants pour que l'insociabilité, la violence de l'homme soit susceptible de revenir.
Ça, c'est un élément, en effet, qui est très important dans la réflexion de Bauman. Comme vous l'avez dit, il s'agit d'un geste critique. Donc, il s'agit de discerner les sources toujours possibles du mal, les sources d'asservissement et de domination qui surgissent dans l'histoire et le temps présent, précisément. Pour l'histoire, il établit dans ce livre « Modernité et Holocauste » une généalogie de la relation entre la modernité, notre modernité et l'Holocauste, dans cet ouvrage donc qui paraît en 1989. Et il est question dans cet ouvrage d'insister sur les effets dévastateurs de la rationalité instrumentale.
C'est-à-dire que c'est par les outils de l'Holocauste qu'il faut aborder aussi son fonctionnement. Et puis le rôle des spectateurs actifs et le rôle des spectateurs passifs, ça aussi c'est très important. Il dit, quand il atteint un âge certain, qui pourrait être celui de la retraite, c'est là qu'il va monter cette notion de modernité liquide qui va le faire connaître dans le monde entier, que jusque-là, il a vécu une période où la liberté, c'était le plus important. On cherchait la liberté, quitte à sacrifier la sécurité. Et puis que le pendule s'est inversé. Alors on vient au Bauman 3, si vous le voulez bien, Pierre-Antoine Chardel, celui de la modernité liquide. C'est une notion qu'il conçoit au moment où la numérisation va triompher. Et on le voit ici méditer devant un iPhone. C'est un extrait d'une émission de Daniel Mermet. C'est drôle parce que Bauman, il est ubiquiste, il a passionné un producteur de Radio France comme Daniel Mermet, puis un autre comme Brice Couturier, qui est infiniment plus libéral. Alors le voici devant son iPhone.
When you bought yourself iPhone 4, I'm sure that you bought.
Je suis sûr, par exemple, que tu t'es acheté le dernier iPhone 4 à un moment.
Absolutely sure that you are buying it not forever, not for eternity.
Je suis à peu près sûr que tu l'as acheté en te disant que c'est pas pour toujours, mais ça va durer l'année prochaine.
Because year later there was iPhone 5.
Et c'est bien ce qui s'est passé, puisque l'année d'après est arrivé l'iPhone 5 et donc il fallait jeter l'iPhone 4.
iPhone 5.
Pour avoir le nouveau.
Et puis, ce qui est formidable avec l'iPhone, c'est que vous pouvez annoncer un licenciement par SMS ou aussi bien une rupture dans vos relations amoureuses.
Hey, coucou, tu veux que je te fasse un tour de magie?
Oui.
Abracadabra, et hop, tu es célibataire. Définition du mot rupture, ce qui est en train de se produire entre toi et moi. Définition du mot lâche, ce que tu es en train de faire. Définition du mot connard, personne qui envoie des textos pour quitter quelqu'un et qui n'a pas le courage de lui dire en face.
With love today is very much what is political coalitions.
Et ce qui est l'amour aujourd'hui ressemble beaucoup aux coalitions politiques.
Coalitions, contracts, labor contracts, everything.
Les contrats pour des politiques, mais aussi des contrats de travail.
Until further notice, they are ad hoc and until further notice.
C'est-à-dire qu'on est ensemble jusqu'à nouvel ordre.
Beaucoup moins de temps n'est nécessaire pour atteindre sa cible. Et puis, beaucoup moins de temps aussi pour lui tourner le dos. L'accès est plus facile, la sortie est plus aisée.
Il y a en effet cette tendance que décrit avec beaucoup de finesse Zygmunt Bauman, qui consiste à aller vers l'autre tout en étant en sécurité, en s'assurant d'être, comme il le dit, dans Rétrotopia.
Alors ça, c'est un des deux livres testamentaires. Premier parallèle, l'éditeur en français.
En effet. Tout en restant, chacun est assuré de rester dans sa zone de confort. Donc c'est une façon d'aller vers l'autre, tout en étant en sécurité, avec cette idée que l'autre est toujours à disposition, que l'autre est toujours disponible.
24 heures sur 24. Vous parlez de donjuanisme. Je prolonge cette réflexion qu'il faisait sur les relations amoureuses. Mais j'aimerais que vous nous racontiez comment Bauman voyait le donjuanisme dans les temples de la consommation. Vous savez, ces endroits où on entre pour acheter avec de l'argent qu'on n'a pas, des choses dont on n'a pas besoin, afin de se montrer à des gens dont on se moque.
Cette logique du donjuanisme, Bauman la repère en effet dans notre... dans notre façon de consommer. Ce qu'il identifie, c'est notre tendance à vouloir accumuler, à vouloir posséder et à vouloir se défaire. Et donc, ce donjuanisme, finalement, est un mode d'être en société qui se répand et qui provoque une crise assez évidente des relations humaines et des relations amoureuses.
Ce qui est étonnant, voilà un homme qui va travailler jusqu'à 95 ans, et alors il s'intéresse au supermarché, il s'intéresse au stade de foot, il dit c'est là qu'il y a le plus de monde dans le pays, sur toute la planète, il va s'intéresser aussi à la télé-réalité. Vous connaissez, vous, Suzanne Boyle, Pierre-Antoine Chardel ?
En effet.
Ouais. Parce que vous êtes un peu débranché quand même, vous êtes professeur d'hypermodernité, mais vous avez enlevé de votre iPhone toutes les fonctions essentielles.
C'est une façon de rester à distance de l'objet d'étude.
D'accord. Alors, Suzanne Boyle, qui aurait pu être un objet d'étude de Zygmunt Bauman, c'est une dame qui a connu une célébrité mondiale après une participation à un concours de chansons, succès mondial, envol des ventes et puis aussi de temps en temps des stress psychiatrique. I dreamed a dream in time gone by.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Merci pour ce beau moment de modernité liquide, comme dirait le héros de cette demi-heure, Zygmunt Bauman, mais vous reprendrez bien un peu de télé-réalité.
Bienvenue dans le monde des affaires.
Nouveau sur M6.
Je m'appelle Bruno Bonnel, je suis créateur d'entreprise. Dans quelques semaines, l'un d'entre vous deviendra mon directeur de développement commercial. Je recrute au mérite. Depuis maintenant plus de 35 ans, je crée des entreprises. Même le meilleur n'est pas assez.
The Apprentice, qui décrochera le job ? Ce soir à 20h55 sur M6.
Soyez à l'heure.
Encore un beau moment, enfin très rare, hein, parce que l'émission avec ici comme héros Bruno Bonnel, imité du jeu de télé-réalité de Donald Trump n'a duré sur M6 que deux soirées. Là, on est au cœur de ce qui intéresse Bauman.
En effet, la télé-réalité devient une sorte de reflet de notre manière d'être en société. La télé-réalité valorise le succès immédiat, la vitesse, et en même temps, elle permet la jetabilité. Et c'est bien cette société liquide qu'on peut entendre aussi comme une société du tout jetable. On jette nos objets comme on jette les individus en les mettant à l'écart. Et cette question de la mise au rebut, la mise à l'écart est extrêmement importante pour Bauman. C'est un enjeu essentiel dans ce magnifique ouvrage « Vie perdue, la modernité et ses exclus ».
Les déchets humains, parce qu'il parle de déchets humains. Juste un mot, Bruno Bonnel, qui a été le héros de cette adaptation du jeu de Trump, est devenu depuis député macroniste du Rhône. Et alors, il explique à ses électeurs, comptez pas sur moi pour vous trouver des places de crèche et des choses comme ça, je suis pas une assistante sociale. Ben oui, c'est un homme qui dit que le meilleur, ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on fait des déchets humains?
Alors, c'est bien précisément cela qui nous fait passer de la solidité à la liquidité. La fin des grands principes qui ont défini la modernité, le rapport au progrès social, le fait que le monde politique et le monde économique sont censés favoriser le mieux-être social, c'est bien là qui est que se trouve le point de rupture par rapport à la liquidité qui jette et qui met à l'écart et qui introduit une notion très importante pour Bauman, qui est cette notion d'invisibilité sociale. On ne veut pas rendre visible, alors même que paradoxalement, on est dans une société de l'image, des flux informationnels, mais qui en même temps met à l'écart ce qui nous répugne et ce qui nous fait peur. Or, précisément, dans cette mise à l'écart de ce qui nous fait peur, on crée des bulles informationnelles, des bulles subjectives. On revient à cette question de la zone de confort qui entretient, qui va favoriser une peur de l'autre. Et là, les conséquences politiques sont considérables.
On peut prendre un exemple, hein, les poches d'invisibilité sous le périphérique.
Par exemple.
Lui, il dit aussi la ceinture infernale qui, entre le tropique du Cancer et celui du Capricorne, nous encercle sans qu'on veuille l'avoir.
Oui, et puis c'est cette tendance à vouloir privatiser, à vouloir sécuriser les lieux, à vouloir nous distancier de ce qui nous semble inhumain. Et c'est aussi très paradoxal, et Bauman a beaucoup insisté sur ce paradoxe. On est submergé d'informations qui nous renseignent sur l'état du monde, ses crises, ses tragédies quotidiennes. Et en même temps, on ne veut pas voir celui avec qui l'on vit dans notre quotidienneté.
Mais c'est l'inverse aussi qui est possible. Quelqu'un des classes moyennes qui arrive par de la chapelle, il est étonné, mais quelqu'un des classes moyennes qui regagne sa place dans la classe économique d'un A380 et puis qui traverse ou qui voit de loin la zone luxueuse avec salle de bain, majordome et grand luxe.
Alors là, c'est les fantasmes, en effet, qui peuvent naître et qui peuvent créer des situations, des sentiments de frustration qui sont très importants et qui définissent en fait notre mode d'être dans notre monde globalisé, où Bauman identifie des distinctions très fortes entre les mondiaux et les locaux, ceux qui ont la possibilité de se mouvoir, qui ont accès à la mobilité, et ceux-là qui... ne peuvent pas être mobiles.
Les frustrations peuvent provoquer des moments de friction. Il a été très attentif à la fin de sa vie à ce qui se passait dans la capitale du Royaume-Uni. Je rappelle qu'il était professeur d'université émérite à Leeds, ainsi à Londres en 2011.
Deuxième nuit de violence à Londres, cette fois la police adopte des méthodes musclées. Des chiens et des bâtons, mais pas d'armes à feu pour disperser les pilleurs. Ce sont des adolescents pour la plupart. Certains sont accompagnés de leurs parents et prennent le temps d'essayer les articles qu'ils viennent de dérober. Les bijouteries, les pharmacies, les magasins d'électronique sont les premiers visés. Les jeunes s'y donnent rendez-vous via les réseaux sociaux. Les affrontements ont eu lieu à Enfield, Walthamstow et Islington au nord, puis à Brixton, au sud de la Tamise. C'est ici que vit la grande majorité de la communauté afro-caribéenne, un ghetto où il ne fait pas bon condamner les actes de violence.
J'ai honte de ce que j'ai vu à la télévision ce matin, j'ai honte.
D'accord, le pillage c'est mal, mais c'est arrivé parce que la police a tué un jeune noir et refuse de nous dire pourquoi. Ces jeunes sont totalement désœuvrés. Ce qu'ils ont volé, ils vont le revendre au marché noir. Pour eux, l'argent, c'est un peu de liberté, la possibilité de s'acheter une paire de baskets ou des jeux vidéo.
Les dernières émeutes qu'ait connues Londres avaient démarré ici, à Brixton, en 1985. Plusieurs nuits de violence qui avaient profondément marqué les Britanniques et surtout envenimé les relations entre la police et la communauté noire. 26 ans plus tard, l'histoire se répète dans ce quartier, dominé par le chômage, la misère et le trafic de drogue.
C'est à dessein, Pierre-Antoine Chardel, que nous passons aujourd'hui un extrait de journal télévisé. D'habitude, nous évitons ce genre de présentation de l'actualité. Parce que Bauman, il aurait dit, voyez, c'est la preuve que les pouvoirs, ne sachant que faire devant les violences sans signification, ne sont pas capables vraiment de rétablir l'ordre, et ils entretiennent un climat de peur, alors que leur fonction devrait être de l'écarter.
Alors, ce qui est très intéressant dans le passage que vous venez de passer, donc relatif aux émeutes et aux pillages de Londres en août 2011, ce sont ces mots de Bauman. Il disait, ce ne sont pas seulement des émeutes de la faim, ce sont des émeutes de consommateurs disqualifiés. Mais il est très intéressant ici de noter que Zygmunt Bauman, avec lui, comment les pouvoirs médiatiques peuvent rendre compte de la violence sociale en exigeant, en érigeant des frontières entre ceux qui commettent des violences et nous, entre, en quelque sorte, entre les bons citoyens et les bons consommateurs et les autres, en rendant de fait plus difficile une interrogation sur les malaises sociaux qui sont la source de violence. Et les politiques, en effet, comme vous venez de le dire, ne sont pas sans être avis de schémas aussi dichotomiques et qui entretiennent en quelque sorte la peur pour pouvoir instituer des politiques télégéniques et les politiques sécuritaires le sont de façon très emblématique.
J'aime beaucoup cette citation que vous faites de Bauman. Il observe que dans le théâtre de Tchekhov, quand au premier acte dans le décor, il y a un fusil qui est montré, eh ben, il faut qu'avant la fin de la pièce, le fusil soit déchargé, sinon il n'a pas eu de fonction. Alors la politique, les pouvoirs ne sont plus où nous sommes. Les pouvoirs peuvent-ils encore quelque chose? Dernière citation de Zygmunt Bauman.
Le pouvoir et la politique se sont unis, et leur coalition semblait si forte que tout le monde, et cela faisait partie de l'imaginaire de la modernité solide, étaient persuadés que leur lien était béni par le ciel et que nul pouvoir humain ne pouvait les rompre. Mais cela s'est produit. Nous en sommes témoins actuellement. Et c'est là le secret de notre sentiment de chaos, de confusion, de perte de contrôle. Nous assistons au divorce entre le pouvoir et la politique. Avant, les deux étaient domiciliés au même endroit, au niveau de l'État-nation. À présent, le pouvoir s'évapore dans les hautes sphères, dans le cyberespace où la politique ne peut l'atteindre. Il est trop loin pour les moyens politiques dont nous disposons, tels que la représentation parlementaire, le gouvernement territorial, le système judiciaire basé sur des lois promulguées dans un pays spécifique, et ainsi de suite. Tous ces moyens sont inappropriés. La politique et le pouvoir évoluent dans des sens opposés, s'éloignant de plus en plus. Et nous avons d'un côté un pouvoir sans contrôle politique, et de l'autre des organes politiques quasiment sans pouvoir.
Des organes politiques sans pouvoir, et un pouvoir sans efficacité, que n'a-t-on lu Bauman? Parce que c'est ce qu'il écrivait il y a 20 ans et que nous vivons là quotidiennement. Mais je voudrais qu'on ne termine pas sur une note négative, Pierre-Antoine Chardel. Qu'est-ce que c'est pour lui, plus positivement, la politique? C'est quoi? C'est l'interaction, le fait de passer du temps avec des gens qui ne pensent pas comme nous?
Je dirais que c'est, pour Bauman, c'est l'art du dialogue. C'est l'art de réinstaurer de la parole vive là où la parole a été enfouie par les flux de l'information et de la communication. C'est une façon de surmonter la division du nous contre eux. C'est une façon de rétablir du lien social qui passe par un effort de compréhension de la diversité culturelle. Et dans le dernier ouvrage paru...
Premier parallèle, Rétrotopia.
Ouvrage posthume, Rétrotopia, ouais. il souligne bien comment c'est par la culture du dialogue et un réinvestissement des lieux qui le permettent, les espaces publics, la rue, l'école, mais aussi rétablir le dialogue dans les organisations. C'est par ce réinvestissement des lieux que nous pourrons voir renaître du politique au sens noble du terme. Ceci à l'heure où l'on parle tant de dématérialisation et de numérisation. Il ne s'agit pas de la contrer comme telle, mais de produire des lieux qui permettent au dialogue, à l'échange vif, à la parole vive,
d'accord,
de surgir.
D'accord. Alors, deux questions. La première, nos problèmes privés ont envahi la sphère publique. C'est pas parce que nos problèmes privés ont envahi la sphère publique qu'ils deviennent ceux des autres. Ça reste les nôtres. Et les problèmes des autres restent les problèmes des autres.
Oui, mais là, c'est tout le travail de la mise en commun qui était souhaité par Bauman. Il y a un arrière-fond très lévinassien. Autrement dit, il est très influencé par Emmanuel Lévinas, ce qui est assez original pour un sociologue, croire en la portée et la puissance du visage,
de
l'interaction directe,
face à face,
de la parole vive, pour rétablir un équilibre aussi dans cet effort de comprendre l'autre et cet effort d'assimiler la culture de l'autre.
Je veux bien parce que Lévinas, il disait, citant un vieux rabbin, les problèmes matériels des autres doivent devenir une question spirituelle pour nous. Bon, rêvons. Mais deuxième question. L'interaction entre les deux mondes, le monde hors ligne, celui dont nous croyons qu'il nous appartient, le monde en ligne qui continue. Comment se fait ? Vous êtes professeur en éthique de l'hypermodernité, monsieur Chardel. Comment ça se fait, le chevauchement ?
C'est un chevauchement, précisément. C'est un art de la dialectique, un art de favoriser l'équilibre. Entre des modes de vie dématérialisés et des modes de vie qui permettent une éthique de la proximité.
Comment vous faites-vous alors ? Vous avez débranché vos fonctions de votre iPhone, encore ?
Je débranche parfois et je suis souvent branché pour mieux me rendre compte des vertus aussi de la solitude créatrice. C'est dans la solitude, dans le silence que l'on forge une pensée critique, et de cette façon, une mise à distance équilibrée vis-à-vis de nos environnements hypermodernes permet aussi de bâtir une pensée critique. Et c'était bien le cas de Bauman.
Vous regardez le vocabulaire informatique, il y a le mot « surfer », il n'y a jamais le mot « plonger », il n'y a jamais le mot « nager ».
Alors on est toujours dans ce vocabulaire de la liquidité, en effet. Il faut apprendre à trouver un équilibre fragile. En effet, il y a cette dimension qui renvoie au surf et à cette capacité de trouver un sens dans cette accumulation de flux.
On peut aussi s'asseoir pour trouver le sens.
S'asseoir et méditer.
Au bord de la piscine. Donc le livre Rétrotopia, c'est premier parallèle, Les enfants de la société liquide, c'est chez Fayard. Et votre livre sur Bauman, Pierre-Antoine Chardel, c'est aux éditions du CNRS. L'émission a été préparée par Franck Olivard avec à la technique Nicolas Cazot et à la réalisation Audrey Ripouille. Et du coup, je n'ai pas eu le temps d'annoncer Mathieu Vidard, je le fais, mais avec solennité, Mathieu.
Merci.
Les premières fois, vous me confirmez ?
Oui.
De l'humanité, c'est dans un instant.
Bravo.
Dans La tête au carré.